Venons-en maintenant au troisième étage de la fusée du modèle girardien, la place et l'originalité du christianisme dans l'histoire des religions. Alors que la mauvaise réciprocité est déjà installée et que la question posée est « comment en sortir ?», le christianisme va proposer une autre réponse que la fausse réconciliation sacrificielle. En cela consiste, pour René Girard, son extraordinaire originalité. À cette fin, la réponse chrétienne procède en trois étapes. Par le dévoilement du mécanisme sacrificiel d'abord, par l'annonce du chemin qui permet d'amorcer réellement la bonne réciprocité ensuite, enfin, par la donation de l'énergie spirituelle qui permettra de s'engager sur ce chemin. Parlons en premier lieu du dévoilement. Selon René Girard, la Bible agit comme force de révélation du mécanisme sacrificiel fondateur de toute culture. Ce qui dans l'Ancien Testament, puis dans les Évangiles, est personnifié par Satan, conformément aux représentations littéraires de l'époque, doit être interprété comme ne faisant qu'un, écrit René Girard, avec les mécanismes circulaires de la violence. Satan est le nom du processus mimétique dans son ensemble, écrit-il. Par quoi se manifeste ce dévoilement ? Essentiellement par une singularité tout à fait remarquable des textes bibliques. Certes, une lecture superficielle semble montrer que les mythes bibliques reproduisent, à quelques variantes près, le modèle sacrificiel. En réalité, les textes bibliques se coulent dans le moule sacrificiel pour mieux le subvertir et le faire éclater. Ceci, déjà très apparent dans un certain nombre de livres de l'Ancien Testament, la Genèse, les Psaumes, les prophètes et en particulier Isaïe par exemple, devient aveuglant de clarté dans le récit de la Passion du Christ où le mécanisme victimaire se trouve entièrement dévoilé. René Girard écrit « Ce sont les trois grands piliers de la religion primitive, les interdits, les sacrifices et les mythes qui sont subvertis par la pensée judéo-chrétienne. » Parlons d'abord des mythes. La Bible rompt avec la causalité magique qui justifie et sacralise la persécution. Le récit se place toujours du point de vue de la victime et jamais de celui des persécuteurs. Toute l'histoire d'Israël elle-même est une histoire écrite du point de vue des vaincus et pas des vainqueurs, ce qui est proprement inouï, car les vainqueurs imposent toujours leur lecture de l'histoire à la postérité. Dès les premiers écrits, ceci transparaît dans le meurtre d'Abel par Caïn, dans l'histoire de Joseph vendu par ses frères, dans les écrits de la captivité à Babylone. De nombreux psaumes apparaissent comme autant de cris de souffrance de la victime injustement tourmentée. Et d'abord, le célèbre psaume 21, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» mis dans la bouche de Jésus en croix par Marc et Matthieu. Les terribles imprécations de certains de ces psaumes, qui choquent aujourd'hui notre bon goût, doivent être interprétées comme autant d'appels au secours de la victime émissaire qui voit se refermer sur elle le mur haineux de ses persécuteurs. Mais c'est bien sûr avec le récit de la Passion qu'éclate la subversion chrétienne. La victime est présentée de bout en bout comme la plus innocente qui puisse être. Elle a raison contre tout le peuple rassemblé. Elle est désignée par le terme d'agneau de Dieu, agneau au lieu de bouc. Le glissement sémantique est révélateur de l'option biblique et évangélique. René Girard observe, je le cite, « En subissant la violence jusqu'au bout, le Christ révèle et déracine la matrice structurale de toutes les religions, même si aux yeux d'une critique insuffisante, ce n'est qu'à une nouvelle production de cette matrice qu'on a affaire dans les évangiles. » Par rapport à toutes les mythologies, L'Évangile dévoile le mécanisme sacrificiel de la persécution et le qualifie comme ce qu'il ne faut pas croire. L'Évangile est ainsi le premier texte de dévoilement intégral du mécanisme sacrificiel. Qu'on le veuille ou non, ce dévoilement marque ensuite toute l'histoire de l'humanité, alors même que sa vérité a les plus grandes difficultés à se répandre. C'est que, comme le remarque René Girard, cette vérité est loin d'aller de soi. Il écrit « Si loin d'être une invention gratuite, le mythe est un texte faussé par la croyance des bourreaux en la culpabilité de leurs victimes, aussi bien d'ailleurs qu'en sa divinité. Si les mythes, en d'autres termes, incarnent le point de vue de la communauté réconciliée par le meurtre collectif, unanimement convaincue qu'il s'agit là d'une action légitime et sacrée, voulue par la divinité elle-même, l'attitude qui consiste à réhabiliter la victime et à dénoncer les persécuteurs n'est pas quelque chose qui va de soi. » Fin de citation. Venons-en maintenant au sacrifice. La Bible va de la même manière que pour les mythes répudier le culte sacrificiel, lequel n'est rien d'autre que la réitération rituelle du meurtre fondateur et de sa fausse réconciliation. Par opposition aux religions avoisinantes, ce rejet apparaît déjà dans les premiers écrits bibliques, et en particulier dans la célèbre histoire d'Abraham et de son fils Isaac. Dès cette époque, le sacrifice d'un animal, un bélier, se voit substitué au sacrifice humain. Mais c'est surtout au niveau des grands textes prophétiques que le sacrifice tout court se trouve purement et simplement répudié comme n'intéressant absolument pas Dieu. Cet enseignement sera repris par Jésus, à qui l'évangéliste Matthieu fait dire « Allez donc apprendre le sens de cette parole, c'est la miséricorde que je désire et non le sacrifice. » Cette parole étant tout simplement reprise du prophète Osée. Quant à la mort du Christ, victime émissaire idéale, elle dévoile par l'absolue innocence de Jésus la vanité de tout sacrifice. Jésus ne meurt pas dans un sacrifice, mais contre tous les sacrifices, écrit René Girard. Contrairement à la fameuse doctrine de la satisfaction, due à saint Anselme au XIe siècle, laquelle fait de la croix un sacrifice voulu par Dieu pour laver l'offense du péché originel, la mort de Jésus n'a pour René Girard rien de sacrificiel. Celle-ci n'est pas un événement unique dans sa dimension maléfique ou bénéfique. Il est unique seulement dans sa dimension révélatrice. L'interprétation sacrificielle de saint Anselme, pour classique qu'elle soit dans la tradition latine, n'a d'ailleurs rien d'obligatoire. Elle n'a jamais été tenue par la tradition orthodoxe, ni par l'école franciscaine, qui avec le bienheureux Duns Scot au XIIIe siècle en a pris le contre-pied. Enfin, dans la foulée de Vatican II, de nombreux théologiens comme Joseph Ratzinger et Antoine Vergotte s'en sont clairement distancés. Le futur Benoît XVI allant même jusqu'à écrire « Certains textes de dévotion semblent suggérer que la foi chrétienne en la croix se représente un Dieu dont la justice inexorable a réclamé un sacrifice humain, le sacrifice de son propre fils. Autant cette image est répandue, autant elle est fausse. » Venons-en enfin aux interdits. C'est sans doute dans l'Évangile que cette subversion des interdits est la plus flagrante. Non pas que Jésus dénonce la loi judaïque dans son principe. Simplement, il la relativise en permanence lorsqu'elle se trouve en concurrence avec les exigences de l'amour du prochain. Ainsi, il n'hésite pas à violer le sabbat pour guérir les malades, à violer les interdits alimentaires pour prendre des repas avec des non-juifs, à violer les prescriptions légales pour pardonner à la femme adultère, à rompre la solidarité religieuse.